Pour clôturer cet après-midi de conférence, on est ravis d'accueillir Anne Debréja, qui est ingénieure économiste à EDF et porte-parole de Sud Énergie. Elle a écrit notamment un livre « L'énergie et notre avenir, socialisons-la ». Elle plaide pour un retour à un véritable service public de l'électricité. On est ravis d'accueillir Anne.
Bonjour, bah merci pour l'invitation. Effectivement, ce petit livre-là, dont j'ai quelques exemplaires. Moi, je suis dans un syndicat Sud Énergie et on l'a écrit avec nos copains militants à Enercop pour essayer de rapprocher un point de vue plutôt inspiré d'EDF, très monopole public du haut vers le bas, avec un point de vue beaucoup plus inspiré de collectifs citoyens et d'un contrôle citoyen qui part du bas. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais rappeler quels enjeux on a face à nous en termes énergétiques. Bon, vous le savez tous, on est dans une crise très grave, multifactorielle et puis multifacette. Les effets, on sait tous la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, l'acidification des océans, enfin, tout un tas de toutes les limites planétaires qu'on est en train de passer les unes après les autres. Bon, je pense que vous en êtes tous conscients, mais malheureusement, quand on s'adresse à une population plus large, on se rend compte que ça n'a pas encore complètement percolé. Et donc, on est complètement obligé de revoir nos modes de production et de consommation en profondeur, donc de prendre, pour reprendre ce qui a été dit, une attitude punk, et alors qu'on continue à essayer de faire prospérer le modèle qui nous a amené là. Et en matière d'énergie, clairement, il faut complètement revoir nos modes de production et de consommation avec deux mots d'ordre. Un premier mot d'ordre, c'est réduire la consommation. Alors, par la technique, c'est l'efficacité énergétique, mais surtout par le changement de nos comportements, la sobriété. Et l'autre chose, c'est qu'il faut absolument décarboner, et de manière très urgente, nos modes de production, sachant qu'aujourd'hui, l'énergie en France est encore à 60% issue d'énergie fossile, donc émettrice beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, c'est mieux qu'en Europe, où on est à 70%, c'est mieux que dans le monde, où on est à 80%, mais enfin, on est encore très, très loin de la cible. Et il faut faire vite. Et ça passe par une électrification massive de nos usages, parce qu'en fait, si on veut se passer d'énergie fossile émettrice de carbone, on n'a pas tant de sources que ça. On a l'électricité décarbonée, donc éolien, solaire, hydroélectrique, nucléaire, diront certains, ce qui pose d'autres problèmes. Et à part ça, on a l'énergie issue de la biomasse, donc nos forêts, les résidus de culture, etc. Mais on se rend compte de plus en plus, année après année, que la ressource est elle-même très fragilisée par tous les problèmes environnementaux. Et donc, il faut la réserver à d'autres choses que produire l'énergie. Et puis, un peu d'énergie solaire directe. Mais voilà, l'électricité est amenée à prendre une part majeure dans nos consommations d'énergie et donc nos productions. Et en plus, alors, il faut donc changer complètement en faisant en sorte d'avoir le moins d'impact possible environnemental sur l'emprise au sol, sur la pollution de l'air, de l'eau, et puis aussi sur l'accès aux ressources, parce qu'on se rend compte que toutes les ressources, en particulier les métaux, l'eau, sont de plus en plus rares. Et si on veut que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie, aux besoins essentiels en France, mais aussi dans le monde, il va falloir partager et économiser partout où on peut. Et en plus, l'autre chose, c'est que l'énergie dans nos sociétés est un bien essentiel, donc il faut garantir à tous cet accès et donc partager, mutualiser le plus possible. Alors l'électricité, maintenant, l'autre aspect, c'est qu'elle a des spécificités techniques qui se prêtent moins bien que tout un tas d'autres secteurs au circuit court et au local, même si on peut se reposer sur le local, ça ne fera pas tout. Et notamment, une de ces spécificités, c'est qu'il faut à chaque instant maintenir un équilibre parfait sur le réseau entre toute la consommation et toute la production. Sinon, même un léger déséquilibre peut conduire à des pannes majeures en quelques secondes. Vous avez sûrement en tête ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal l'année dernière. En 30 secondes, toute l'Espagne et le Portugal se sont retrouvés dans le noir, plus un petit peu de la France. voilà, pour un léger déséquilibre au départ. Donc ce sont des systèmes fragiles. Et donc pour équilibrer cette production et cette consommation, à chaque instant, on a besoin de différents moyens de production. On peut avoir des moyens de production qui produisent ce qu'on appelle en base. On a des moyens de production qui sont là, qui coûtent cher, mais qui sont là pour équilibrer juste à certains moments. Il faut des moyens de stockage, il faut des réseaux. Et donc il faut planifier, parce qu'en plus c'est des investissements de très lourds en général, de très long terme, donc il faut planifier sur le très long terme, et puis il faut mutualiser de manière à ne pas réserver les productions les moins chères à certains pour que d'autres aient les plus chères, ce qui est aujourd'hui à vrai dire la tendance actuelle, hein. On est en train de se diriger vers un système où chacun essaye de réserver certaines productions, enfin en particulier les grands industriels, il restera le reste à payer par les autres. Donc, quelle est la situation ? Alors, évidemment, ces contraintes d'équilibre et de mutualisation, de coordination de tous les moyens de production et du réseau ne se prêtent pas du tout pour des questions intrinsèques à la concurrence, puisqu'on se doute bien que pour maintenir un équilibre, si chacun est en concurrence, ça ne va pas aider. Il faut vraiment que chacun joue la même partition et soit coordonné finement. Et pourtant, vous le savez tous, on est depuis une directive européenne de 1996, on a une obligation partout en Europe de mettre en concurrence à la fois la production et la consommation d'électricité et de gaz. Ça a été une directive inspirée des politiques Thatcher, Reagan, très libérales, et ça s'est mis en place progressivement. Et ça a donné un système complètement aberrant qui fonctionne très mal. Alors comment on a fait pour faire rentrer de la concurrence dans ce secteur où quand même à chaque instant tout le monde consomme la même électricité? Alors côté production, bon, EDF est encore à 80%, produit encore 80% en France, notamment parce qu'il a évidemment le parc nucléaire actuel, et puis aussi il a les trois quarts du parc hydraulique. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a d'abord donné une partie du parc hydraulique à des entreprises où sont rentrées immédiatement Engie, ancien Gaz de France, mais aujourd'hui privé, qui font des rentabilités absolument délirantes sur ces barrages, notamment les barrages du Rhône, mais aussi un petit peu les barrages dans les Pyrénées. Et puis on a incité à ouvrir au privé les productions renouvelables, donc l'éolien et le solaire. Alors de temps en temps, c'est des projets citoyens, la plupart du temps, c'est des projets à but lucratif. Donc voilà côté production, sachant qu'en fait la plupart de ces centrales de production renouvelables qui appartiennent au privé ont des garanties d'État, c'est-à-dire l'État par contrat leur garantit un prix sur toute la durée de vie de l'installation. Et à la fin, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, ça fait des rentabilités substantielles. La Cour des comptes dit que sur le solaire et l'éolien, dans les trois quarts des cas, la rentabilité est supérieure à 10%, ce qui est quand même très élevé, et dans un quart des cas, c'est supérieur à 18%. Et alors sur l'hydraulique, la Compagnie nationale du Rhône, donc qui est une filiale à 50% d'Engie, elle, depuis l'entrée d'Engie, la rentabilité était de 24% par an, ce qui est absolument prodigieux. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une reconduction de leur contrat. Donc on est vraiment dans une privatisation qui est loin d'être sous contrôle citoyen aujourd'hui d'une partie de la production. Et l'autre aspect, ça a été l'autre bout de la chaîne, on a surtout mis en concurrence la partie fourniture, c'est-à-dire la commercialisation de l'électricité. Alors, c'est une activité la plupart des fournisseurs n'ont aucune activité de production et leur activité consiste essentiellement à acheter pour revendre. Évidemment, j'exclus certains fournisseurs engagés, notamment Enercop, qui, au passage, font du conseil, accompagnent les gens dans la manière de développer des projets citoyens et puis de mieux consommer. Mais sinon, l'essentiel de l'activité de fourniture, donc, c'est acheter pour revendre, donc c'est une activité purement financière de trading et puis une activité commerciale. Le résultat, c'est qu'il a fallu mettre évidemment un marché, une bourse de l'électricité pour que les fournisseurs puissent s'approvisionner auprès des différents producteurs. Ce marché, alors je pourrais y revenir si vous voulez un petit peu dans l'échange. Le prix est fixé par, par le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère en production à un instant donné, en général une centrale à gaz. Et donc on a un prix de marché d'électricité qui ne correspond pas du tout à ce que coûte l'électricité. Mais c'est un prix de bourse très, très adossé au prix du gaz, qui est un cours mondial. Et donc on a un prix complètement volatile, incontrôlable et qui de temps en temps est inférieur au coût de production, et ça pose un problème pour les investissements évidemment, et de temps en temps est nettement supérieur au coût de production et ça pose un problème pour les consommateurs. Donc je pense que vous avez tous en mémoire, donc il y a eu des crises depuis le début à vrai dire avec ce prix de marché. Mais évidemment, la pire crise a démarré au printemps 2021, où les cours du gaz ont commencé à s'envoler à cause de la reprise post-Covid, enfin, différents événements, les cours mondiaux. Et donc, on a vu commencer à flamber les prix de l'électricité. S'est rajouté dessus la guerre en Ukraine, qui a encore fait plus flamber les prix du gaz, plus un problème sur le parc nucléaire qui a créé une tension. Et donc, on s'est retrouvé avec des prix de marché qui ont dépassé les 1100 euros du mégawattheure, sachant que pour produire, ça coûtait 70 euros du mégawattheure. Donc, on était dans des délires complets. Le résultat, c'est que ça a mis tout le monde en difficulté. Ça a alimenté grandement une crise économique, avec des mairies, par exemple, qui se retrouvaient avec des factures qui étaient multipliées par 4, voire par 10. Donc, ils ne pouvaient plus répondre aux services de proximité comme elles le pouvaient, l'aide aux associations, évidemment l'isolation des bâtiments publics. Mais enfin, toutes les aides étaient complètement contraintes. Enfin, il y a eu des alertes partout. Les entreprises, vous avez sûrement entendu l'alerte des boulangers qui ne pouvaient plus régler leurs factures, mais ça a été toutes les petites entreprises qui se sont trouvées en grande difficulté, des grandes entreprises qui ont délocalisé pour essayer d'échapper à ce prix. Attendez, je vais peut-être contrôler, pardon, excusez-moi, je prends mon téléphone pour contrôler le... Voilà, pour contrôler. Et donc, et tout ça, alors que les coûts de production avaient un peu augmenté, mais absolument pas dans ces dimensions-là. Pour les particuliers, ça a augmenté la précarité énergétique. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec une facture, des rattrapages de plusieurs milliers d'euros de factures. Et donc, on est, alors qu'avant, je veux dire, si on n'était pas rentré dans ce système libéralisé, si on était resté dans le système public de tarifs publics basé sur les coûts tels qu'il était avant, il n'y aurait pas eu de crise. Il n'y aurait pas eu cette crise. Il y aurait une petite augmentation qui aurait été tout à fait contrôlable. Donc, on a vraiment eu une crise à cause de cette mise en concurrence. Donc, aujourd'hui, nos factures dépendent de ce cours de bourse, continuent à dépendre de ce cours de bourse. Suite à la crise, on nous a dit qu'on va faire une grande réforme pour éviter que ça se reproduise. On est toujours exactement dans la même situation. Donc aujourd'hui, on est toujours à la merci d'une nouvelle flambée des prix. En plus, l'autre effet que ça a, c'est quand on a des prix aussi instables que ça, les industriels disent « mais nous, on ne va pas électrifier nos usages, nos procédés, si on n'a pas la visibilité sur l'évolution des prix ». Donc voilà, on est dans un système complètement aberrant dont on n'arrive pas à sortir. Des fournisseurs qui, pour beaucoup, se comportent très mal, ont envoyé des factures ne répondant plus à leurs clients, ont spéculé avec l'électricité qu'ils avaient achetée pour leurs clients, en faisant partir leurs clients pour qu'ils aillent chez EDF, qui était fournisseur en dernier ressort. Il y a des rapports du médiateur de l'énergie année après année, disant qu'il y a des démarchages frauduleux qui se font passer pour Enedis, qui se font passer pour d'autres, et on n'arrive pas à réguler tellement le système est devenu extrêmement compliqué. EDF, lui-même, ex-entreprise publique, ne se comporte plus du tout comme un acteur public, enfin, essaye de gagner des parts de marché, de vendre des offres de marché plutôt que les tarifs réglementés, essaye de profiter en fait, enfin, d'avoir une rentabilité rapide. Voilà, donc on est dans ce système-là. Alors nous, ce qu'on propose dans le livre, c'est de sortir de cette concurrence pour revenir pour socialiser l'énergie, pour revenir à une énergie gérée pour le bien commun, pour l'intérêt général, et non pas pour les rentes de certains acteurs privés. Il y a eu des rentes complètement gigantesques qui se sont faites pendant la crise. En 2 ans de crise, il y a eu 37 milliards qui sont partis dans les poches des énergéticiens et qu'on n'a pas récupéré, quoi. Et ça continue sans arrêt. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est un retour, c'est qu'il y ait qu'il soit plus possible de faire du profit dans ce secteur, qui est un secteur essentiel aujourd'hui et qui l'est aussi pour la transition énergétique et pour le long terme, avec une propriété publique des moyens de production. Alors quand on dit public, c'est au sens large, c'est-à-dire ça peut être la propriété d'État pour les grands moyens de production, ça peut être la propriété des collectivités locales, ça peut être la propriété d'associations ou de coopératives à but non lucratif. Revenir à un exploitant unique qui propose des tarifs réglementés égaux pour tous, parce que les tarifs réglementés, c'est la seule façon d'avoir une égalité de traitement entre les différents usagers, ce qui est quand même essentiel pour un bien public comme ça. Et puis, améliorer, on ne demande pas de revenir à ce qu'était EDF avant, on sait bien qu'il y avait des problèmes, et notamment des problèmes de contrôle citoyen, donc on décrit quels pourraient être les contrôles citoyens à toutes les échelles. Le premier des contrôles citoyens, c'est avoir des débats sous forme de conventions citoyennes, voire sous forme de référendum sur les scénarios de long terme qu'on veut sur notre politique énergétique. Notamment, la relance du nucléaire aurait dû être soumise à un débat et à un vote citoyen. Contrôler les opérateurs publics avec une obligation de transparence, des contre-pouvoirs, des organismes indépendants qui contrôlent via des contrats de service public. Et puis, un tarif réglementé pour tous, et on ne demande pas du tout à sortir des échanges avec l'Europe, comme c'est souvent reproché quand on dit qu'on veut sortir du marché. On continuerait à avoir les échanges avec nos voisins via le marché européen, mais le marché ne servirait qu'à ça, qu'à gérer les échanges avec nos voisins. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation et remettre un peu sur les bons rails l'énergie ? D'abord de l'éducation populaire, hein, et ce que vous faites aujourd'hui, c'est essentiel pour faire prendre conscience à tout le monde que les enjeux sont énormes, qu'il n'y a pas de solution facile, qu'il va falloir faire des efforts et changer nos comportements, qu'il va falloir changer nos comportements individuels, mais surtout collectifs. Il faut mettre en place toute une organisation collective qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut contrôler les choix qui sont faits, exiger un contrôle démocratique. Il faut militer pour socialiser l'énergie, sortir le privé de ce secteur. Et puis, il faut dépasser les faux débats. Il y a eu beaucoup de débats sur... c'était un peu l'objectif du livre, là. Le monopole public serait contre l'intérêt des citoyens et il faudrait se concentrer sur les expérimentations locales. Nous, ce qu'on pense fondamentalement, c'est qu'il faut développer la production décentralisée, locale, il faut un contrôle citoyen localement, mais ça sera très très loin de résoudre tous les problèmes. Donc il faut avoir une vision aussi d'ensemble pour que les projets citoyens ne soient pas l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pas parce qu'on a une production décentralisée qu'on n'a pas besoin d'un seul chef d'orchestre pour organiser la coordination entre tous ces moyens de production. Et puis il faut penser, c'est pas parce qu'on a non plus une énergie décentralisée qu'il faut renoncer à ce qu'on appelait la péréquation tarifaire, c'est-à-dire une forme de redistribution sur l'ensemble du territoire. Pour ne pas abandonner certains endroits qui sont moins pourvus en énergie ou certaines personnes qui n'ont pas de toit pour mettre des panneaux solaires et qui n'ont pas les moyens. À titre d'exemple, par exemple, toute l'hydroélectricité en France, qui est quelque chose d'essentiel, elle est disposée sur à peu près la moitié du territoire français. Donc il y a la moitié qui ne dispose pas de barrage et donc il faut vraiment servir de cette mutualisation. Voilà. Et donc ne pas confondre les débats. Démarchandiser, socialiser, avoir un système public au sens large ne veut pas dire avoir une centralisation. C'est deux types de débats séparés. Et puis, il faut voir les différentes étapes. C'est-à-dire que il y a d'abord une étape qui consiste à construire le parc de production de demain. Et ça se fait sur la base de scénarios qui existent aujourd'hui, qui ont été développés par certaines associations comme Negawatt, qui maintenant sont développés aussi par RTE, le gestionnaire de réseau, ou par l'ADEME. Ces grands scénarios tracent des trajectoires. Il devrait y avoir donc des choix citoyens à ce niveau-là. Ensuite, pour construire le parc, on peut très bien faire appel au privé via des appels d'offres, via la concurrence. Mais il ne faut pas que les moyens de production restent propriété de ces privés, c'est-à-dire qu'ils sont constructeurs, mais la propriété doit être publique. Et la gestion doit être publique et il faut, une fois que le parc est construit, toute l'exploitation doit être publique. Et pour finir, juste un petit mot sur la question du coût du capital. Donc l'électricité et l'énergie, ce sont des investissements de très long terme sur plusieurs décennies. Ça veut dire que ce qui coûte le plus cher, c'est les conditions de financement, le coût du capital, c'est-à-dire les taux d'intérêt bancaire et ce que demandent les apporteurs de capitaux, les actionnaires. À titre d'exemple, si on emprunte à 1% pour construire le parc de demain, ou si on emprunte à 7%, entre les deux, on aura doublé le coût du système. Voilà, merci. Voilà. Si je peux prendre une ou deux questions éventuellement, voilà. Ah non, on va s'arrêter là.
On peut en prendre une ? On peut en prendre une,
ouais. Ouais. C'est ce que vous avez une question ?
Oui, merci pour votre intervention. Vous n'avez pas parlé de l'endettement d'EDF. Est-ce que ça ne peut pas poser de problème, justement, pour les énormes investissements qui sont envisagés ?
Oui, c'est vrai. EDF est très endetté, je crois, à hauteur plus ou moins de 50 milliards. Alors moi, je pense qu'en tant que tel, ce n'est pas forcément un problème. EDF a été plus endetté par le passé, au moment où il a construit le parc nucléaire. Et en fait, c'est des endettements il y a un actif en fait normalement. Quand EDF investit pour construire un parc, si on met en place un tarif réglementé de vente basé sur les coûts, alors ils sont sûrs de rembourser ces coûts. Après, en fait, la façon la plus saine pour investir sur des investissements de très long terme, c'est même pas EDF, c'est l'État qui doit le faire. Et il commence à y avoir des négociations sur le nucléaire, sur l'hydraulique, pour que ça soit l'État qui investisse, parce que c'est l'État qui a la structure la plus solide et qui a les conditions de financement les plus importantes.
Merci.
Mais merci.
Merci beaucoup Anne, merci pour cette intervention qui vient du coup donner une perspective, on va dire, globale et politique à tout ce qui a été discuté aujourd'hui. On peut l'applaudir, on n'a pas applaudi.